Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Souvent, je leur dis, si vous êtes une personne du matin et si votre énergie est au plus haut le matin, si vous avez une discussion un peu difficile à avoir avec un collègue, avec votre femme, avec votre belle-mère, faites-la le matin quand votre énergie est au plus haut. Parce que souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont des conversations difficiles quand ils sont émotionnellement au plus bas.
Ouais.
Et quand ils ne sont pas à leur niveau d'énergie le plus haut. Donc,
tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Salam alaikum wa rahmatullah, Hanan.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, alhamdoulilah. Comment vas-tu, Abdelrahman?
Je vais très très bien, alhamdoulilah. Je suis en déplacement, donc j'essaie de retrouver mon setup pour l'enregistrement. Il fait bien chaud là en ce moment à Lyon, je suis à Lyon. J'ai le ventilateur qui pointe vers moi parce qu'il n'y a pas de clim. C'est bon, avec le ventilateur, ça va. Hanan, je suis très heureux de t'accueillir sur mon podcast. C'est un petit moment que tu en avais parlé et que je t'avais invité. Pour commencer, Hanan, je vais te proposer de te présenter rapidement, de nous dire un peu donc, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Très bien, c'est la question piège. très difficile de se présenter et de se définir. Donc, je suis Hanan Ramdani. Je suis née et j'ai grandi en France, dans le nord de la France, à Dunkerque. Souvent, les gens, quand je leur dis que je suis de Dunkerque, ils me disent « mais t'as pas l'accent ». Non, je n'ai pas l'accent dunkerquois, mais je peux le faire quand je suis face à des collègues du Nord. Donc, je suis née dans une famille marocaine. Je suis la troisième de sept enfants. Donc, je suis un peu au milieu. Je suis la troisième fille. Ensuite, j'ai quatre frères qui sont plus jeunes que moi. Actuellement, je vis à Dubaï. Je suis à Dubaï depuis 3 ans. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Je me définis en fait comme... bien sûr, par rapport à mes compétences professionnelles, je suis un chef de projet, mais plutôt chef de programme. J'ai commencé ma carrière en banque, où j'ai commencé à gérer des projets dans le marketing. Et toute ma vie, en fait, c'est vraiment centré autour de la gestion de projets. Et aujourd'hui, je travaille dans une entité gouvernementale à Abu Dhabi, où je gère une équipe qui délivre des projets dans le marketing et la communication. À côté de cela, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour développer mon projet en productivité, basé sur une méthode qui a été créée par The Productive Muslim Company, qui est basée aux États-Unis. Et donc, du coup, je passe énormément de temps à éduquer les musulmans et musulmanes sur comment être productif et comment combiner la productivité avec sa spiritualité. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Que dire d'autre Moi, je pense que c'est ce que ça me définit bien, mais je suis
on va creuser un peu plus.
Oui.
T'inquiète pas. Donc voilà, Clofik Hanan, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, honnêtement, pourquoi je t'ai contacté, c'est principalement ce qui m'a tapé à l'œil, c'est vraiment cet aspect voilà, productive muslim, productivité. Donc ce cours, ces masterclass que tu donnes. Donc on a pu se rencontrer lors d'un événement il y a quelques mois et tu as pu en parler. J'ai trouvé ça très intéressant et je connaissais déjà le contenu de Mohamed Faris aux États-Unis. Et donc, je trouvais ça intéressant que je pense que tu dois être la seule française francophone qui ait participé à ces cours. Peut-être que je me trompe. Donc, tu as dit que tu as pas mal voyagé. Ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que tu voyages, que tu n'es plus en France?
Oui, ça fait plus de 15 ans. Oui. Ouais. En fait, dans le cadre de mes missions en tant que chef de projet, j'ai été amenée à travailler pour des multinationales donc, qui étaient basées en France. Et dès 2008, j'ai commencé à gérer des projets pour des clients, enfin pour des boîtes françaises, mais pour des clients qui étaient situés à l'étranger. Donc, j'ai commencé par vraiment travailler sur des projets en Angleterre, en Espagne, en Europe du Nord, donc au Danemark, en Suède. Et donc, c'était des projets de 8 à 12 mois. Je rentrais chez moi le week-end, mais la plupart du temps, j'étais en dehors de la France jusqu'en 2013, où j'ai vraiment eu des missions un peu plus longues. En 2013, j'ai fait une mission de 2 ans à Taïwan. Et ensuite, c'est là où j'ai réalisé que vraiment, quand tu passes beaucoup de temps en dehors de la France, quand tu rejoins, je pense pas que ce soit que le cas de la France, mais quand tu rejoins, quand tu repars dans ton pays d'origine, il y a une déconnexion. Et donc, du coup, au travers de mes voyages, je n'arrive plus à trouver ma place en France et j'ai demandé à être mutée. Et en 2015, j'ai définitivement quitté la France. J'ai passé 5 ans en Australie, à Sydney. Et depuis 2020, je suis à Dubaï.
Donc c'est intéressant ce que tu dis. Juste avant, je veux rebondir dessus, mais tu as fait toutes tes études en France, hein, on est d'accord? Tu as grandi à Dunkerque, tu as fait tes études là-bas?
Oui, à Lille. J'ai fait mes études à Lille.
À Lille, ok. C'était dans le sujet du marketing, ou c'était quoi ta thématique d'études?
Alors, j'ai fait un bac éco et ensuite j'ai étudié l'économie et la gestion pendant 4 ans. Et quand j'ai terminé ma maîtrise en économie, en éco-finance, j'ai eu la possibilité, grâce à un de mes professeurs, d'intégrer un DESS, un Master 2, on appelait ça un DESS à l'époque, un Master 2, qui venait juste d'être créé, qui était en fait un DESS qui était vraiment centré sur le marketing des services et qui avait en fait une spécialisation en banque et en assurance. Et comme en fait j'avais passé 4 ans à étudier l'économie et la gestion avec une option finance, je me suis intéressée à ces métiers, à ce Master 2 parce que je me voyais plus m'orienter vers des métiers qui étaient tournés vers le marketing plutôt que des métiers finance. J'étais pas une matheuse, quoi. Enfin, pour moi, les mathématiques, on va dire que j'ai étudié les mathématiques parce que c'était important et qu'on me disait c'est important d'être bonne en maths, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, quand j'ai eu connaissance de ce nouveau Master 2 qui alliait en fait mes connaissances en économie et qui abordait des sujets marketing, j'ai sauté le pas. Donc, j'ai fait partie d'une première promo d'un Master 2 en marketing des services. Et à la suite de ce master, j'ai eu la possibilité d'intégrer une banque à Paris pour faire mon stage de fin d'année. Et c'est là où j'ai démarré ma carrière en marketing et en communication, mais également en gestion de projet.
Ok, très bien. Et donc, tu étais encore en France à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a amené à partir de la France à un moment donné? Tu as eu une opportunité, tu le souhaitais, c'était un choix personnel ou ça t'est tombé dessus comme ça?
Ah, disons que c'était un choix personnel, c'était une curiosité de vraiment de découvrir le monde parce que, pour être honnête, j'ai grandi dans une famille marocaine où les vacances, l'été, c'était le Maroc. Donc, j'ai passé un certain nombre d'étés au Maroc et j'ai pas vraiment eu l'occasion de voyager à part des séjours scolaires, un seul en Angleterre. Et donc, du coup, ensuite, étant issue d'une famille d'immigrés, mon père était ouvrier, ma maman était mère au foyer, et étant issue d'une famille assez nombreuse, j'ai dû travailler en fait à mi-temps pendant toutes mes études pour pouvoir payer mes études. Donc je suis arrivée en fait en bout d'études à Paris à faire un stage assez intense. J'étais vraiment fatiguée et je me suis dit il est temps pour moi d'aller découvrir le monde. Et donc du coup j'ai cherché à intégrer des entreprises avec une dimension internationale. Donc, après être diplômée, après avoir fini mon stage, j'ai intégré une banque. Et donc, j'étais envoyée en séjour professionnel en Angleterre pour discuter avec des prestataires. Et en 2004, j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis. J'avais une amie d'enfance qui habitait à Miami. Donc, je me suis dit, je vais aller passer des vacances avec elle. Et ça a été vraiment pour moi une ouverture d'esprit. Je me suis dit, il se passe des choses en dehors de la France. Et Et aller à la rencontre de personnes d'autres cultures, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de vraiment très intéressant parce que on apprend qu'il y a d'autres pays qui, selon moi, gèrent la diversité de manière différente que la France. Donc, quand je suis rentrée, j'ai eu aussi l'opportunité de quitter cette banque et d'intégrer une multinationale dans le domaine financier qui avait des filiales également dans toute l'Europe. Et quand je cherchais un emploi, en fait, j'avais cette dimension internationale en tête. C'était je voudrais gérer des projets qui incluent cette diversité et qui incluent ces projets internationaux. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages grâce au boulot. Parce que non seulement j'y allais pour le boulot, mais je prenais le soin de rester sur place et d'apprendre la culture, d'apprendre la langue. Et de par ces voyages, j'ai eu la possibilité de parfaire mon espagnol également, de pouvoir aller à la rencontre de personnes de différentes cultures. Et c'est vraiment à partir de 2008 où j'ai passé 80% de mon temps à l'étranger, parce que je me disais que c'est cette richesse qui me permettait de grandir et d'aller à la rencontre de personnes qui étaient autres que ceux avec qui j'avais grandi. C'est ce qui faisait que je me connaissais mieux et que je grandissais. Donc, j'ai vraiment eu cette. Comment dire en français, j'ai vraiment eu cette piqûre où j'étais assez obsédée et addict au voyage en me disant, ben non, c'est vraiment assez ennuyeux, c'est boring d'avoir un job où c'est que franco-français. Moi, je veux une dimension internationale. Et ce qui faisait en fait mon quotidien était passionnant. Un jour, je travaillais avec une équipe française, le lendemain, je travaillais avec une équipe anglaise. Un jour, je faisais une réunion de 9h à 10h en français, la réunion d'après était en anglais, la réunion d'après, des fois, était même en espagnol. Et cette richesse, en fait, je me suis dit que c'était la meilleure façon pour moi de m'épanouir.
C'est intéressant ce que tu dis, hein. C'est vrai que les voyages permettent vraiment de s'ouvrir à plusieurs choses. Toi, à travers tous tes voyages, tu peux voir quelques moments clés en fait de ton expérience dans les voyages ou même en revenant en France, qui toi, tu penses, t'ont forgé en fait dans ton identité.
Oui, alors j'ai eu plusieurs expériences qui ont vraiment forgé mon identité. La première, ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment en rapport avec ma culture française. J'ai commencé à travailler avec des équipes en Europe, des équipes aux Pays-Bas, en Espagne, en Europe du Nord. Et ils avaient en fait une idée assez cadrée et assez obtuse du français ou de la française. Et effectivement, dans le cadre du travail, on a cette idée du français qui travaille que 35 heures ou qui arrive à l'heure qu'il veut ou qui prend des pauses à toute heure. Et en fait, on m'identifiait comme cette personne-là à chaque fois que j'intégrais ces équipes. Et comme en fait, les projets que je faisais, ils étaient quand même assez long terme, c'était du 3 à 6 mois, ils devaient s'habituer en fait à se confronter au fait que leur idée du français ou de la française était différente de ce qu'ils voyaient avec moi. Je pose un exemple. J'ai travaillé pendant 9 mois sur un projet aux Pays-Bas pour le fournisseur d'électricité, l'équivalent d'EDF. Et en fait, j'étais en charge de déployer un outil de marketing automation pour pouvoir gérer leur campagne marketing. Et donc, du coup, c'était vraiment une mission où Hanan, elle devait être là en tant que consultante 5 jours par semaine. Et vous aider à implémenter cet outil. Donc le premier jour, en fait, j'ai pris un avion de Paris jusqu'à Amsterdam et j'ai continué ma route en voiture. Et en fait, j'ai mal calculé mon coût parce qu'au lieu d'arriver à l'heure prévue à 8h45, j'avais visé, il y avait beaucoup, beaucoup de bouchons à la sortie d'Amsterdam et je suis arrivée à 10h15. Donc du coup, j'ai eu droit à une blague de la part de mes équipes, de l'équipe client en disant... 10h15, oui, typique, français. Et je lui dis, excusez-moi, mais c'était vraiment pas voulu. Mon avion a atterri à 8h. J'avais pas calculé qu'il y avait beaucoup de bouchons. Non, mais on a l'habitude, les Français arrivent très tard au boulot. Et je lui dis, ben non, c'est pas correct. Et donc, en fait, tout le long de mon séjour, je suis arrivée la première et je suis partie la dernière. Et souvent, j'avais des discussions avec mes collègues hollandais qui me disaient « t'es vraiment à l'opposé de ce que l'on pense du français qui est vraiment très attaché à ses horaires. » Et je dis « moi, je suis attachée au résultat. » Et le résultat, pour moi, c'est si je dois livrer un projet, je suis… bien sûr, on a un cadre de 35 heures, on a un cadre de 40 heures, mais l'important, c'est le résultat et c'est la qualité. Et donc, du coup, ça m'a fait mal quand j'ai eu ces remarques parce que c'était assez récurrent. Ça a commencé avec des remarques sur la culture française. Après, ça a commencé avec des remarques sur le fait que j'étais d'origine étrangère. Et donc, il y avait en fait la comparaison avec leur expérience de personnes d'origine étrangère dans leur pays. Et je leur disais, mais il faudrait peut-être me connaître. Avant de me mettre des étiquettes sur le front. Donc ça m'a beaucoup forgé sur le fait que j'avais cette mission de montrer le bon exemple. Donc et ça a commencé vraiment dans le cadre du travail parce que souvent j'avais des remarques comment t'en es arrivé là? T'es d'origine maghrébine? T'as fait des études? Waouh, t'es à ce poste-là? Comment tu as fait? Est-ce que c'était du piston? Et donc, du coup, j'ai, très tôt, spécifiquement quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu l'impression que je devais montrer l'exemple et montrer que les idées reçues devaient être effacées. Donc, je m'y suis attachée de par mes voyages à l'étranger. Parce que ce qui est intéressant, c'est que de tous mes voyages à l'étranger, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans d'autres pays et dans d'autres entreprises, on me considérait comme française. Et c'est vrai que ça a été assez étonnant pour moi parce que en France, on a souvent la question, oui, tu viens d'où? Et donc, quand on répond, je suis française, non, mais tu viens d'où vraiment? Je suis française, non, mais vraiment, vraiment, tes parents, ils viennent d'où? Mais écoute, ils sont également français. Alors que quand j'étais à l'étranger, j'ai eu cette expérience. Alors, peut-être que pour d'autres, elle était différente, mais pour ma part, on me considérait, quand je leur disais que j'étais française et qu'ils détectaient un accent français, ils s'arrêtaient là. OK, tu es française. Et je trouvais que c'était assez rafraîchissant parce que quand j'allais à l'étranger, je montrais l'exemple de par mon éducation et de par aussi ma religion. Je montrais que être française à l'étranger, c'était différent peut-être des idées reçues qu'ils avaient et que je pouvais montrer le bon exemple.
Je pense que beaucoup de personnes qui voyagent à l'étranger ou qui ont travaillé à l'étranger peuvent l'attester. Quelque chose qu'on retrouve souvent, je pense pas dans tous les pays, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter aussi de mon côté. C'est vrai qu'on pose beaucoup moins de questions sur d'où on vient. Enfin,
Oui,
on est catégorisé comme français, tout simplement. On dit qu'on est français, on ne
exactement.
pose pas spécialement des questions. Ou bien quand on pose des questions, c'est assez rare et ça reste respectueux. Très bien. Donc, on a pu faire un petit peu le tour de ce que tu fais, de ton parcours. Revenons maintenant à ton activité secondaire, on va dire, avec, je crois que ça s'appelle du coup de Productive Sister, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Oui, ça c'est mon nom, c'est le nom de l'entreprise que j'ai gérée. C'est également le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur qu'est-ce que de Productive Sister, d'où est-ce que ça vient, quand est-ce que tu as découvert un peu cette thématique-là, et qu'est-ce qui t'a vraiment tapé à l'œil, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ça, et pourquoi maintenant tu es si active dans ce monde un peu de la productivité chez les musulmans?
Alors, Productive Sister, j'ai créé cette entreprise l'année dernière. Fin 2022. Je suis vraiment, j'ai toujours été très, très intéressée et passionnée par ces sujets de développement personnel, mais également de productivité au travail, de par mon expérience et mon expertise en gestion de projet. Être un chef de projet, c'est livrer des projets en temps, en heure et dans le budget et avec les ressources dont on dispose. Et donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup étudié, beaucoup lu sur les sujets de la productivité. Et c'est vrai que ça a été toujours sur un angle très, très laïque, très business, très conventionnel. J'ai toujours été passionnée par ces sujets, mais j'ai toujours été très passionnée par mon métier. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis intéressée à la productivité pour les musulmans un peu par hasard. Ce qui s'est passé, c'est que comme je disais, j'ai beaucoup voyagé pour le travail. Et en 2015, j'ai été mutée en Australie. Et en Australie, j'ai eu plusieurs expériences. Et ma dernière expérience a été pour une boîte qui gérait des solutions digitales pour les fast-foods et pour ce qu'on appelle QSR, qui est Quick Service Restaurant. Donc, c'est vraiment ce qui est fast-food, restauration rapide, petits restaurants. Et donc, du coup, cette compagnie proposait des solutions de kiosque, des solutions de drive. Et quand j'ai intégré cette compagnie, c'était vraiment pour être chef de projet et c'était pour intégrer en fait des processus pour mieux gérer leurs clients parce qu'ils avaient une base de clients qui commençait à vraiment, vraiment grossir et ils avaient besoin de structurer leur approche de livraison de leurs solutions. Donc, je suis arrivée en tant que chef de projet, mais bien sûr, comme on est à l'étranger, je suis aussi arrivée avec mon étiquette de française. Donc, du coup, ouais. On a eu une opportunité, on a eu un appel d'offres vraiment le mois suivant mon arrivée dans cette entreprise. Et cet appel d'offres arrivé de France. Donc, naturellement, le PDG m'approche, s'approche de moi, il me dit Hanen, good job, tu fais un excellent travail. J'ai une question à te poser, est-ce que tu peux aider l'équipe commerciale sur cet appel d'offres on a vraiment un souci, on ne sait pas comment gérer les Français, ouais. Ils sont vraiment très exigeants. Et donc, du coup, j'ai dit OK. Mais en fait, quand j'ai accepté cette mission, je ne m'attendais pas à vivre un total burn-out. C'est-à-dire que j'ai accepté une mission en plus de mon travail de structuration de leur gestion de projet. Donc, j'avais déjà une équipe de 20 personnes. Et en plus, on me demandait de travailler sur un appel d'offres avec un pays qui était 10 heures, enfin, avec un décalage horaire de 10 heures.
Ouais, c'est pas facile.
Et qui était à 24 heures, voilà, et avec 24 heures d'avion entre nous deux. Entre les deux équipes. Donc, du coup, moi, comme à l'accoutumée, j'aurais dit bien sûr, yes, I can, comme dirait Barack Obama, yes, we can. Donc, on a toujours, tu sais, cette impression qu'en tant que... Alors, je ne sais pas si je peux mettre cette étiquette, mais en tant que personne issue de l'immigration qui a toujours tout approuvé, on ne peut pas dire non. Donc, j'étais dans le yes mode. Oui, bien sûr, je peux le faire. Donc, ouais. En travaillant sur cet appel d'offres, j'ai vraiment eu un burn-out qui m'a conduit à l'hôpital parce que je faisais des voyages entre Sydney et Paris. Je voulais absolument gagner cet appel d'offres et je voulais vraiment prouver qu'on pouvait le faire, qu'on avait la meilleure solution digitale. Et donc, du coup, j'ai travaillé avec les équipes McDonald's France et avec les équipes de mon entreprise, de mon employeur à Sydney pendant 18 mois. Et donc, du coup, ça a craqué. J'ai vraiment fait un burn-out où j'étais complètement anémique et j'ai atterri à l'hôpital. Et donc, du coup, le docteur urgentiste, elle m'a vraiment ouvert les yeux en me disant « t'as besoin de te reposer, j'ai pas de médicaments pour toi. Ce dont tu souffres actuellement, c'est vraiment c'est un burn-out total. C'est vraiment de refaire le point sur ce qui est essentiel pour toi, qu'est-ce qui est important, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler 20 heures sur 24 ?» Et donc là, du coup, je me suis dit « il faut que je me remette… faut que je me remette les idées claires. » Donc, en fait, au lieu de me prescrire des médicaments, elle m'a prescrit 2 semaines de vacances. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, je vais prendre ces 2 semaines de vacances. Et c'était au moment où Mohamed Faris faisait une retraite en Indonésie. Donc, du coup, j'ai tout lâché et j'ai dit, je vais dans cette retraite. Le titre, il est vraiment très, très, très attrayant pour moi parce que le titre, c'était Productivity Retreat. C'est vraiment, faites un reset complet de votre vie. Faites un reset et vous allez apprendre à vraiment combiner votre productivité avec votre spiritualité.
Donc, et comment t'es tombé sur Mohamed c'est tombé sur ça en fait.
J'étais abonné à sa newsletter, donc je recevais sa newsletter et en cherchant une destination de vacances, je me suis dit bon, où est-ce que je pourrais aller ? Et je voulais vraiment faire un séjour, en fait, pas simplement faire du farniente et me trouver une plage où je vais pouvoir me relaxer, mais quelque chose qui va me permettre justement de faire un lâcher-prise et de faire vraiment un reset de ma vie et de revenir plus forte. Donc, c'était vraiment ce que, en plus, le docteur me disait de faire. C'était vraiment trouve un endroit où tu vas pouvoir faire de la méditation. Elle me disait, hein, fais de la méditation, du yoga, mais vraiment, essaye de te détacher complètement de ton travail. Donc, ouais. Quand j'ai vu le programme, parce que le programme, c'était aussi c'était une retraite qui alliait workshop avec des tentes, qui était vraiment dans un endroit idyllique. C'était sur l'île de Bintan en Indonésie. Et l'île de Bintan en Indonésie, c'est vraiment très propice à la relaxation. Et c'est aussi se connecter avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, qui ont besoin en fait d'apprendre comment combiner leur spiritualité avec la productivité et comment faire en sorte de mettre de manière assez basique Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin, parce que quand on passe 20 heures au travail et quand on est entre plusieurs time zones et quand on doit vraiment livrer sur différents projets, on met de côté sa religion. On a d'autres priorités. Ma priorité, moi, c'était vraiment de gagner cet appel d'offres et de faire de ce projet un succès. Et je me suis complètement perdue. Donc, du coup, je suis arrivée à cette retraite et je me suis présentée, tout comme tu m'as demandé de me présenter. Donc, du coup, c'était je suis chef de projet, je gère ça. Et tout était lié à mon boulot. Et donc, le groupe me dit, enfin, Mohamed Fadis me disait, non, mais à part ça, à part ton boulot, comment tu te définis? Et c'est là, en fait, où vraiment ça a été pour moi une épiphanie, parce que je me suis dit, je ne suis pas chef de projet. Je ne suis pas que chef de projet. Je suis aussi une sœur, je suis une fille, je suis une. Mais là, je suis une. Je suis une esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis une serviteuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a autre chose que notre quotidien de travailleuse. Donc, du coup, je me suis vraiment posé les bonnes questions. Et à la fin, en fait, de cette retraite, j'ai vraiment senti que tout ce que j'avais appris me faisait en sorte que je devais me questionner sur quel était notre objectif sur cette terre. Et vraiment une conscience de l'au-delà, vraiment une conscience, parce que quand on regarde notre objectif sur terre, la raison pour laquelle nous sommes sur terre, c'est vraiment de servir, d'être serviteur dans la supranatale. Et j'ai l'impression que ce qui est marrant, c'est que comme en fait le client à l'époque, c'était McDonald's, j'ai l'impression qu'à l'époque, moi, mon objectif, c'était de proposer des solutions pour vendre plus de burgers. Et honnêtement, ça, c'est quelque chose qui m'a écœurée, parce que je ne mange même pas de burgers. Donc, c'est vrai que cette retraite, elle a été complètement... ça a été une transformation pour moi. Parce que c'était vraiment tourné sur des principes de développer ce qu'on appelle la baraka culture.
Ouais, tu vas pouvoir nous en parler plus en détail. Oui. Juste avant, comment est-ce que tu disais que tu étais abonné à la solution de Mohamed Fallis, à la newsletter, pardon. Tu t'étais tombé de super hasard, lui aussi. Tu avais déjà commencé à chercher de manière peut-être inconsciente, je ne sais pas. Comment tu étais tombé sur Mohamed Fallis?
Je suis tombée dessus en faisant des recherches sur la productivité, donc vraiment sur le web, parce que quand j'ai pris connaissance de Productive Muslim Company, j'étais en Australie et j'avais une copine qui avait son livre et qui donc du coup m'avait conseillé de regarder ce livre. Et au lieu en fait d'acheter le livre, je me suis dit d'abord, j'aimerais bien aller voir de plus près ce dont il s'agit. Donc, je recevais régulièrement des articles. Et c'est vrai que quand on regarde le blog de Productive Muslim Company, c'est assez étoffé. Enfin, il a commencé en créant ce blog. Donc, il y a des articles qui remontent de 2007. Et j'ai l'impression qu'en recevant ces articles deux fois par semaine dans ma mailbox, c'était suffisant pour moi pour m'intéresser d'autant plus. Et comme je suis quelqu'un d'assez pratique, je préfère en fait la pratique plutôt que de lire plusieurs bouquins. Je me suis dit, je vais aller à cette retraite, à ce séminaire. Et de là, c'est là où j'ai décidé en fait de vraiment lire le livre de bout en bout et d'appliquer les principes de Productive Muslim Company. Donc oui, c'était vraiment un peu par hasard, de par mes recherches, et aussi quelqu'un qui m'a parlé du livre.
Ok. Donc, J'imagine que ça a bien chamboulé ta vie entre le séminaire ou bien la retraite plutôt en Indonésie. Qu'est-ce qui s'est passé après en fait? Comment tu organisais ta vie? Enfin, j'imagine que tu ne pouvais pas changer grand-chose en fait aux missions. Qu'est-ce qui s'est passé après cette retraite?
Eh bien, après cette retraite, j'ai vraiment, comme en fait je suis chef de projet, ça a été, et je suis vraiment très axée sur organisation, productivité, planification. Cette retraite, en fait, c'est une masterclass condensée en 5 jours. Et on a 5 modules durant cette retraite qui nous permet d'aborder des sujets différents pour augmenter sa productivité à différents niveaux. Et on sort de cette retraite ou on sort de cette masterclass avec des outils très pratiques. C'est-à-dire que si on veut changer notre vie et vraiment faire en sorte que ce soit axé sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa religion, enfin, cette masterclass permet après cette retraite, après le dernier cours, de vraiment mettre en pratique ça. Donc, moi, pour moi, ça a vraiment été de mettre en pratique une routine, une planification, tirer les avantages de chaque instant de la vie et chaque instant de la journée. Dans cette masterclass, on apprend, et maintenant que je suis certifiée, j'apprends en fait aux étudiants comment caler son planning, son programme sur des principes islamiques. C'est-à-dire que chaque principe qui est présenté dans The Productive Muslim Company, c'est basé sur des hadiths, basé sur des versets du Coran, et c'est avec des exemples très pratiques et également des exemples scientifiques. Donc pour moi, ça a été vraiment de prendre ces outils pratiques. Et l'un d'eux, ça a été quand on a étudié la routine quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, The Productive Muslim Company, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un cadre et ils ont répliqué d'après des hadiths, d'après des versets du Coran, d'après des recherches qu'ils ont pu faire, ils ont créé ce qu'on appelle la routine quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend 24 heures, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam planifiait sa journée. Et pour moi,
Oui,
ça a été vraiment
c'est
intéressant parce que la première chose dont on se rend compte, c'est que il n'était pas si burn-out, il n'était pas si dépassé que ça. Et c'était un prophète. C'était quelqu'un qui avait une mission de la plus haute importance. C'était quelqu'un qui vraiment était là pour montrer l'exemple. Et quand on étudie sa routine, on se rend compte vraiment que c'était très, très équilibré. Quand on dit très équilibré, c'est que ce qu'on apprend pendant cette masterclass, c'est qu'il faut pouvoir planifier son jour, sa journée, selon ses activités sociales, physiques, spirituelles, mais également laisser la place au sommeil, s'assurer qu'en fait, quand on dit productif, c'est tout cela. Et quand on regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer ses journées, même s'il se réveillait pour tahajjud, même s'il se réveillait très 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 tôt, même s'il se réveillait au milieu de la nuit, il arrivait à passer du temps avec sa famille, passer du temps avec les sahaba, passer du temps avec des activités qui lui permettaient d'être très productif à tous les plans, donc socialement, spirituellement, physiquement. Et donc du coup, moi, quand j'ai vu cette visualisation très pratique, je me suis dit, même si je fais un job de bureau, comme on dit, un 9 to 5, un 9h-17h, on a la possibilité de caler cela avec la routine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand on regarde, bien sûr, il y a un tas de ressources, un tas de livres qui nous parlent ce qu'on appelle Miracle Morning, qui nous parlent de Miracle Fajr, qui nous parlent de les heures bénies du matin. Bien sûr que c'est quelque chose qui est intégré au programme, mais tout au long de la journée, on peut faire en sorte de combiner en fait sa spiritualité avec sa productivité. C'est une question de mindset, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et c'est de revoir en fait ce cadre de la productivité en l'exprimant en tant que musulman et de se dire que chaque élément de notre vie quotidienne est assurément pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, quand on regarde ça, parce que quand je reprenais l'exemple du burger, moi, la question qui me chagrinait, le challenge que j'avais, c'était, au bout du compte, j'ai mis mon énergie pour un employeur qui aidait une organisation pour vendre du fast-food.
Oui.
C'était quoi mon objectif? Quel était mon raisonnement derrière? Et en quoi je peux le rallier avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, c'est vrai que le takeaway de cette retraite, c'est vraiment... Et le takeaway de la masterclass que j'offre, c'est vraiment des outils pratiques et qui nous permettent de vraiment faire un shift vers quelque chose qui, pour nous, a une importance primordiale en tant que musulmans, c'est de mettre Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner son job, je ne dis pas qu'il faut démissionner, je ne dis pas qu'il faut se présenter demain au boulot et dire « non, mais c'est bon moi, mon objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala », mais en termes de mindset, c'est vraiment de se dire « tout ce que je fais au long de la journée, ça doit servir ma religion ». Donc, je donne un exemple. Et j'aime bien cet exemple parce que c'est un exemple que beaucoup d'ingénieurs de software ingénieurs software peuvent relater. C'est Mohamed Fallis qui a rencontré des étudiants en Afrique du Sud qui leur demandait, oui, mais c'est bien beau de dire, même dans notre quotidien au travail, notre objectif doit être relié à Allah subhanahu wa ta'ala, mais moi je fais du code. Je fais du code toute la journée, c'est très rédhibitoire, c'est assez ennuyeux. Comment je peux faire pour faire en sorte de ramener de la baraka dans ce que je fais et d'avoir un lien entre ce que je fais et Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que tu as des noms de Allah subhanahu wa ta'ala qui te viennent à l'esprit et que tu chéris? Il dit, oui, pour moi, Allah est El-Jamil. Et il lui dit, est-ce que tu peux qualifier le code que tu fais dans le cadre de ton travail de software engineer de beau? Est-ce qu'il y a du mauvais code et du bon code? Est-ce qu'il y a du beau code? Est-ce qu'il y a de la beauté dans le code? Il me dit, ah oui, non, mais moi, quand je me surpasse, je peux exceller en cette matière. Et il dit, c'est comme ça, en fait, que tu intègres la notion de baraka dans ton travail au quotidien. Au lieu de rester 8 heures par jour devant ton ordi et de dire coder, ça n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala ou avec ma religion, on peut en fait changer ce mindset en se disant, je fais du code qui relève d'une beauté supérieure parce que je le lis avec un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est El-Jamil. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on peut trouver beaucoup, beaucoup d'exemples dans ce sens.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Par rapport à tout ce qui est développement personnel classique, on va dire, comment est-ce que ça différencie en fait la productivité, on va dire, islamique ou musulmane, enfin pour les musulmans parce que dans la productivité classique, on est souvent, je pense, hein, après ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur la question, à l'époque... J'étais assez intéressé. On est beaucoup sur le quantitatif, sur cadrer sa journée, etc. C'est quoi la grosse différence, en fait? Bah, je pense que tu l'as pas évoqué en disant que voilà, on fait les choses pour Allah, mais peut-être que tu as d'autres choses à ajouter.
Oui, je pense que... Enfin, déjà, il faut partir d'un principe que on n'a pas beaucoup de travaux, de livres, de masterclass, de formations qui sont poussées justement sur cette notion de productivité qui est basée sur l'islam. Et donc, du coup, la différence ici, c'est que vraiment, quand on apprend à masteriser sa productivité, il y a plusieurs éléments. Donc, la définition laïque, c'est de se dire que la productivité, c'est une équation, en fait. C'est son énergie multipliée par son focus et c'est multiplié par son temps. Là où la définition de la productivité pour les musulmans change, c'est que ça doit être tourné vers un objectif, vers un output qui est bénéfique. Donc on ne fait pas ça juste pour pouvoir produire. Tout ce que l'on fait dans le cadre de notre productivité en tant que musulman, c'est pas maximiser son output dans ce monde, mais comme le définit la productivité dans le sens de la baraka culture, comme je l'appelle, la culture de la baraka, c'est maximiser son impact dans ce monde et pour l'au-delà. Donc, quand on ajoute ce facteur qui est l'au-delà, c'est là où on commence à vraiment avoir une définition de la productivité qui est plus proche de nos principes religieux. Et ce que j'enseigne dans cette masterclass, c'est que même si en religion, même si dans l'islam, on dit que tout est écrit, la façon dont on maximise l'output en tant que musulman, c'est d'appliquer une équation qui est la suivante. La première, c'est vraiment d'avoir des intentions sincères. Et quand on dit qu'on a des intentions sincères, c'est de penser, d'avoir une réflexion très poussée sur ce que l'on veut atteindre dans cette vie et dans l'au-delà. C'est la planifier et c'est également de décider, de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir mettre en place ces intentions sincères. Ensuite, la deuxième partie de l'équation, c'est de manager, de gérer son environnement. C'est-à-dire que quand on veut que quelque chose se fasse, il faut pouvoir apprendre, il faut pouvoir s'aligner avec cette volonté et il faut prendre, faut agir. Donc, si par exemple quelqu'un veut passer son doctorat ou si quelqu'un veut être docteur, on est d'accord que faire des deux rats en disant je vais être docteur, je vais être docteur, je vais être docteur, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir s'inscrire à une fac de médecine, il faut pouvoir apprendre, il faut pouvoir agir. Donc, quand on dit gérer son environnement, c'est vraiment s'aligner avec ce qu'on appelle les lois naturelles. On ne peut pas d'un jour au lendemain se dire je vais faire une deux rats parce que je vais être docteur et demain je veux devenir un docteur. La troisième partie de l'équation, c'est vraiment de se dire tout arrive avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout arrive avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui se passe sans sa permission. Donc, quand on a compris que si on a une volonté, si par exemple on a un projet et qu'on additionne les intentions sincères, les lois naturelles et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté, enfin le projet, il faut que on le laisse aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour pouvoir faire en sorte que ce projet se concrétise, il faut pouvoir avoir ces trois éléments. Et la masterclass, c'est vraiment se poser les questions de comment faire en sorte de mettre en place ces équations. L'équation de ce qu'on appelle de l'output, c'est qu'est-ce que je veux dans la vie. Et également l'équation de la productivité. Masteriser son énergie, masteriser son focus, masteriser son temps pour avoir justement l'output que l'on veut.
Super intéressant. Si on parle de ton cas personnel, comment est-ce que ton quotidien en termes d'organisation a changé? Est-ce que tu te lèves plus tôt ou tu t'organises tes soirées, tes matinées, ta journée en fait, est-ce que tu as vu un gros changement par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé?
Totalement, oui. En fait, la façon dont j'organise ma journée, c'est vraiment d'écouter mon corps, d'écouter en fait de me connaître mieux. C'est-à-dire que pour maximiser sa productivité, il faut qu'on puisse masteriser son énergie, il faut qu'on puisse masteriser son focus et son temps. Donc l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on veut masteriser son énergie? Son sommeil, la nutrition et également l'activité physique. Donc c'est aussi dans cela aussi que ma gestion du quotidien a changé pour pouvoir masteriser mon énergie. Quand on parle également de masteriser son focus, souvent, on parle de solutions quand on regarde les ouvrages qui sont non musulmans. On parle souvent de hacker, hack ton cerveau. Il faut que tu hack ton cerveau pour pouvoir être plus performant. Mais on a aussi d'autres solutions qui sont aussi basées sur sur notre religion et sur des hadiths qui font en sorte qu'on puisse hacker notre focus et notre concentration. Bien sûr, on parle de gérer les distractions. Aujourd'hui, on vit dans un monde extra-digital, c'est-à-dire que tout se fait sur écran et faut prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur la concentration. Et ce que j'ai mis en fait dans mon quotidien, c'est comment gérer ces distractions. Je dis pas que c'est facile. C'est toujours un work in progress, comme on dit. C'est toujours quelque chose sur lequel je travaille. Mais la gestion des distractions, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes ou qu'elles soient des distractions de la vie, c'est quelque chose qu'il faut savoir manager, qu'il faut savoir gérer pour pouvoir mieux planifier sa journée. Alors bien sûr, j'ai des outils pratiques et j'ai des solutions pour s'assurer qu'on ait une journée bien, bien fournie. Mais ce sont vraiment des outils pratiques que je présente dans ma masterclass qui ne sont pas forcément des choses qui vont vous rendre overwhelmed, c'est-à-dire que vous n'allez pas être dépassé par ces outils. Souvent, quand je parle avec des musulmans ou des musulmanes, on me dit « Non, mais moi, je suis vraiment assez étourdie par tout ce qui se montre dans les réseaux sociaux sur l'organisation. Moi, je ne suis pas parfaite. Mes placards, quand je les ouvre, ils ne sont pas… ranger de manière militaire et j'ai pas envie d'intégrer une masterclass où on va m'apprendre des choses qui relèvent des vidéos d'organisation qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Et moi, je dis mais non, c'est à chacun d'utiliser ses outils de la manière dont on veut. Donc moi, effectivement, me connaissant, je suis quelqu'un du matin. Je suis une personne du matin et à travers ces masterclass, j'ai appris que, bien sûr, les moments bénis de la journée pour les musulmans, c'est le matin. Donc, du coup, même pour gérer mon énergie est au plus haut le matin. À partir du moment où on se connaît et que l'on sait exactement à quel moment de la journée on performe le mieux, c'est là où on peut planifier ces moments importants. Et je donne souvent l'exemple, par exemple, quand on se connaît et qu'on se dit « Ah tiens, je vais traquer mon énergie, je vais tracer mon énergie et je vais définir si je suis quelqu'un du matin ou de l'après-midi ou du soir. » On a beaucoup de personnes qui sont des gens du soir. Souvent, je leur dis « Si vous êtes une personne du matin et si votre énergie est au plus haut le matin, si vous avez une discussion un peu difficile à avoir avec un collègue, avec votre femme, avec votre belle-mère, faites-la le matin quand votre énergie est au plus haut. » Parce que souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont des conversations difficiles quand ils sont émotionnellement au plus bas.
Ouais.
Et quand ils ne sont pas à leur niveau d'énergie le plus haut. Donc, c'est également ces choses-là qu'on apprend dans cette masterclass, c'est comment définir vos moments les plus forts de la journée, comment faire en sorte que vous êtes plus productif pendant ces moments-là et qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces moments-là. Si je prends l'exemple d'un professionnel qui a un travail, un cadre musulman par exemple, qui travaille dans le bureau et qui a un comité de direction à préparer et qui a besoin vraiment de se concentrer pour ce comité de direction, si cette personne est une personne du matin, c'est à ce moment-là qu'il faut planifier non seulement cette préparation, mais également le comité de direction. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais des comités de direction et j'étais vraiment mal organisée. Et souvent, c'était des comités de direction qui se faisaient en France. Et à l'époque, j'étais en Australie. Donc, je prenais un vol qui atterrissait à Charles de Gaulle à 7h du matin et j'arrivais au comité de direction à 9h30. Vraiment l'exemple qu'il ne fallait vraiment pas prendre parce que j'avais 24 heures de vol dans la vue et je devais parler pendant 30 minutes parce que c'était le créneau qui m'était alloué. Et je sentais vraiment que de manière émotionnelle, j'arrivais à livrer. J'arrivais vraiment à préparer mon comité de direction et à présenter. Mais émotionnellement, je n'étais pas prête. Je n'étais pas au top de cela. Et en plus, quand on voyage, on boit beaucoup de café, on n'a pas forcément un repas des plus sains, spécifiquement dans l'avion. Et donc, du coup, je me souviens que j'avais des comités de direction réguliers comme ça où je me disais, mais pourquoi je me suis énervée à répondre à cette question? Mais pourquoi je l'ai pris personnellement? Et c'est quand on apprend,
Ouais.
qu'on apprend à se connaître qu'on se dit, mais j'ai fait ça au pire des moments. J'aurais
Ouais.
dû le faire 2 jours après mon arrivée, ou j'aurais dû arriver 2 jours avant, et j'aurais dû me préparer, avoir un petit déjeuner sain, rien de lourd, et de répéter, et ensuite de venir et d'être au plus fort. Donc c'est vraiment
Oui.
ces choses-là où en fait tout arrive à la productivité. La productivité, c'est vraiment l'énergie, le focus et le temps. Et en tant que musulman, ce qu'on apprend dans cette masterclass, c'est comment combiner tout cela avec nos obligations de musulman. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros projet, je veux réussir mon projet d'entreprise, je sais qu'il faut que je prie tahajjud. Comment je fais pour avoir les bons cycles de sommeil, pour que je puisse être en bonne santé et que mon énergie soit au plus haut, pour pouvoir livrer mon projet. Donc, c'est vraiment ça que l'on aborde. Et comment se connaître, comment connaître les temps forts de la journée et faire en sorte de planifier votre journée avec les 5 piliers de la journée, qui sont les prières.
Okay. Non, c'est vachement intéressant. Vraiment intéressant. Donc, en fait, toi, tu as suivi le programme, enfin, tu as suivi le programme pour toi-même au départ quand tu étais dans la retraite en Indonésie. Et puis, je sais pas si tu l'as évoqué, je crois pas encore, hein, on en avait déjà discuté. Tu as ensuite suivi une formation avec Mohamed Fallis. C'est vrai que Mohamed Fallis, on n'en a pas parlé très en détail, qui habite aux États-Unis. En fait, pour être, devenir une coach certifiée, dans ce domaine-là, en fait.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Donc, j'ai participé à la retraite de 2019 et depuis 2019, je participe à toutes ces masterclass. Donc, je suis en fait ce qu'on appelle une étudiante en série. The Productive Muslim Company offre beaucoup, beaucoup de masterclass. Et en fait, comme j'étais vraiment passionnée par ces sujets qui me touchaient parce que c'était vraiment tourné vers les musulmans, j'ai fait 2 retraites. À Bintan, et ensuite j'ai également fait une autre retraite en Ouzbékistan l'année dernière, et j'ai également participé à toutes ces masterclass. Et donc, du coup, comme je suis très proche de Productive Muslim Company en tant qu'étudiante et que je connais également Mohamed Fallis personnellement, on a eu beaucoup de conversations disant quand est-ce que tu vas avoir la possibilité de former. Et en fait, il a pris la décision l'année dernière de former des coachs à la méthode productivité. Et il a passé le flambeau, c'est-à-dire qu'il ne fait plus ses masterclass productivité. Et nous sommes maintenant dans le monde, je pense, une quarantaine de formateurs qui ont pris le relais de la productivité pour les musulmans. Et nous proposons ces formats dans le monde entier. Alors moi, j'ai eu vraiment à cœur de le faire pour la communauté francophone, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin et que c'est quelque chose qui peut être très bénéfique. Et donc, du coup, j'ai pris ce programme de certification en novembre. Je l'ai finalisé, j'ai reçu la certification. Et depuis, j'ai pu faire 5 masterclass avec des personnes un peu du monde entier. J'ai fait des masterclass anglophones, francophones. J'ai fait du one-to-one aussi. Je fais aussi du coaching. Et là, je suis aussi en train d'organiser une retraite pour les Français francophones. Je suis encore en train de finaliser cela avec des personnes qui sont un peu reconnues en France dans la partie fitness et qui sont aussi reconnues également en partie psychologique, parce que je veux vraiment faire un forum de 3-4 coachs très, très, très expérimentés. Et ça va se passer quelque part, pas très loin de là où je suis, donc au Moyen-Orient. Il va être ouvert aux femmes et aux hommes en forme retraite. Et donc le contenu, ça sera également la même chose que le contenu de la masterclass productivité, où on ira vraiment de manière détaillée dans les 5 sessions pour apprendre à être plus productif. Et en plus de ça, j'organise également en ligne, un week-end intense fin septembre, à partir du 22 septembre, pour la communauté francophone. Donc, en fait, c'est libre de choix. Vous pouvez vous connecter de n'importe où. Et ça va être vraiment 3 jours, un total de 18 heures de formation. Et à la fin, en fait, comme je fais cette certifi comme je suis certifiée et comme j'ai fait ce programme avec le matériel et les outils de Productive Muslim Company, chaque étudiant a la possibilité d'avoir un certificat de participation à cette masterclass de la part de Productive Muslim Company.
OK. Oh, c'est génial. Très bien. Bah, écoute, je pense que j'imagine que tu as beaucoup de masterclass que tu souhaites effectuer dans le futur. La prochaine, au moment où on se parle, nous, on l'enregistre en août. Je crois que
Oui.
tu disais que ce serait prévu pour fin septembre, 20, 22, 23, 24, quelque chose comme ça. Donc,
Exactement.
l'épisode sera sorti avant. Donc, ceux qui sont intéressés pourront se renseigner. Il y aura un site internet qui sera en description. Je pense que ce sera sur ton site officiel,
Oui, oui. Oui,
productivesister.com. C'est bien ça?
exactement, exactement.
Et donc, pour ceux qui sont intéressés, donc je vous encourage à aller jeter un œil. Hanan, on approche de la fin de l'interview. J'aurais quelques petites questions à te poser, mais avant ça, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé qu'on aborde?
Non, je pense qu'on a parlé, on a parlé de beaucoup de choses. Le sujet sur lequel vraiment je suis passionnée, c'est Baraka Culture, qui est à l'opposé de ce qu'on appelle, en anglais, on l'appelle Hustle Culture. En fait, en français, je l'appellerais plutôt la culture du charbonnage. Je ne sais pas si tu me comprends quand je dis ça,
Ouais.
mais j'ai l'impression qu'il y a une culture en français où pour réussir, il faut charbonner.
Ouais.
Productive Muslim, en fait, offre un différent, un œil différent sur cette culture où, en gros, pour livrer, pour avoir une évolution de carrière, pour être au top, il faut travailler 16 heures par jour. Donc, vraiment, moi, c'est ce qui m'a attiré vers ce programme et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vraiment m'y intéresser et de m'y consacrer, parce que je veux vraiment, comment dire, vraiment faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience de la culture baraka dans notre religion, qui est à l'opposé de la culture du charbonnage. Je pense que j'ai trouvé le nom, la culture du charbonnage.
Ouais.
Donc, pour détailler un peu la culture de la baraka, c'est vraiment être centré sur Allah versus être centré sur l'ego. C'est vraiment être concentré sur l'au-delà au lieu d'être concentré sur cette dunya uniquement. Bien sûr, on vit dans cette dunya, mais il faut toujours avoir un focus sur l'au-delà. C'est aussi s'intéresser à l'acceptation par Allah subhanahu wa ta'ala au lieu d'être vraiment concentré sur le résultat matériel. Et c'est également être dans le contentement plutôt que d'être jamais satisfait. Et dans le charbonnage, c'est ça que l'on voit, c'est qu'on n'est jamais satisfait. On voit souvent, on a vraiment des hashtags en plus dans les réseaux sociaux qui disent « hustle, hustle, hustle ». Et en fait, cette idée d'être jamais satisfait, c'est quelque chose qui est à l'opposé de nos principes religieux. Et on en revient en détail dans cette masterclass. Et si, aussi dans cette position de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'être tout le temps en train de chercher la reconnaissance de l'autre
Ouais.
et dans l'humain. Et on a en fait tous ces principes qui sont étudiés dans le détail dans cette masterclass, où en fait on privilégie une position de focus, mais dans la tranquillité, dans la présence, plutôt qu'être toujours distrait, toujours être pressé, toujours être busy. Aujourd'hui, on est dans un environnement où on est dans le business. Et quand on demande à quelqu'un comment vas-tu, on ne répond même plus ça va, on dit non, je suis busy, je suis busy.
Ouais,
Donc, vraiment revenir, tout le monde est busy, mais c'est vraiment revenir sur cet aspect de baraka et de développer cette culture de la baraka avec un sens de la responsabilité plutôt qu'un sens de ce qu'on appelle l'entitlement, tu vois,
ouais.
dans le sens où, non mais je le mérite, dans le sens du
Ouais,
mérite. On n'est pas
exactement.
en tant que musulman, on ne doit pas être dans le sens du mérite, mais plutôt dans le sens de la responsabilité en tant que musulman de montrer l'exemple. Et encore une fois, voilà, le dernier principe de la Baraka Culture que j'adore, moi, c'est que quand je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont développées dans la productivité, dans le charbonnage, etc., mais ce qu'on nous apprend dans l'islam, hein, et j'ai pas mal de références en tant que hadith et de versets, c'est que l'islam, c'est également c'est centré sur des efforts qui sont petits, mais qui sont réguliers, consistants et long terme. Alors que cette culture du charbonnage, c'est toujours centré sur vraiment ce qu'on appelle les big moves. Et on est toujours dans les pivots. Il faut toujours prendre avantage du maintenant, maintenant, maintenant. Il faut le faire maintenant, sinon tu vas perdre cette opportunité. La culture de la baraka, c'est vraiment de se poser et de se dire je travaille sur mes intentions sincères, je fais ce qu'il faut faire. Donc, je travaille pour mes intentions sincères, mais de toujours laisser le résultat dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce sur quoi je voulais conclure avant tes questions, Abdelrahman, mais vraiment de se dire que quand j'enseigne la productivité, ce n'est pas pour faire en sorte que vous puissiez charbonner. Au contraire, c'est vraiment de faire un shift et de vraiment de se recentrer sur, en tant que musulman, comment je peux faire en sorte d'être productif, mais également d'accomplir mes devoirs, tout ça en étant aligné, de vraiment la spiritualité alignée avec la productivité, quelle qu'elle soit, productivité sociale, productivité au travail, productivité spirituelle.
Je te remercie, Hanan. Je pense que c'était très clair hein, pour les auditeurs. On va partir sur les questions de la fin, du coup. Donc, bismillah. Quelles sont les compétences, ou peut-être la compétence, qui pour toi est la plus utile au travail, dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours?
En tant que chef de projet et de coach, c'est vraiment la communication. C'est d'avoir une communication qui est assez claire et qui est constante. C'est ce que j'ai appris dans mes 20 ans d'expérience en tant que chef de projet, et c'est ce qui est appris dans les principes. Enfin, je suis certifiée PMP, qui est la plus haute certification pour les chefs de projet, et on nous enseigne que la gestion de projet, c'est 80% de communication. Et c'est la compétence pour moi qui est la plus clé, et c'est d'avoir une communication qui est articulée, c'est-à-dire de se faire comprendre de manière aisée, mais également de ne pas assumer que la personne en face de soi est au courant, sait les choses. Non, c'est vraiment de communiquer, même si on arrive à un moment où personnellement, on a l'impression de faire de la communication excessive. Ça n'existe pas, la communication excessive. C'est vraiment de communiquer sur les objectifs d'un projet, par exemple, ou sur les objectifs d'une activité. Et de faire ça de manière très, très régulière. Donc, moi, c'est ce que j'applique au quotidien, et c'est pour ça que j'adore les pratiques et les méthodes agiles, parce que les méthodes agiles, spécifiquement quand on aborde des projets en mode Scrum, on a des réunions quotidiennes de 10 à 15 minutes le matin. Et moi, c'est ce que j'enseigne aussi. Et c'est ce que je pratique, c'est-à-dire que tous les matins, pendant 15 minutes, à 8h30, je parle à mes équipes et on fait le point et on communique sur quelles sont les attentes de chacun, qu'est-ce que l'on va pouvoir obtenir aujourd'hui, quels sont les risques, quels sont les problèmes qui peuvent arriver ou qu'on est en train de gérer. Et pour moi, c'est l'élément clé, c'est la communication.
Ok, très bien. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? Enfin, du coup, toi, tu travailles plus les formations, les masterclass. Dans ces deux choses-là, qu'est-ce que tu préfères?
Ce que je préfère, c'est vraiment la collaboration. C'est-à-dire que je fais en sorte que la masterclass est très, très interactive. Dans les masterclass, en fait, et c'est pour ça que je pense qu'il y a le terme master, c'est-à-dire que il y a vraiment un nombre d'informations et de références et de connaissances que l'on souhaite partager. Mais à un moment donné, il faut laisser la place à la communication et à la collaboration avec les personnes qui font partie de cette masterclass. Et chacun a son histoire, chacun a ses difficultés et chacun a ses challenges. Donc moi, ce que je préfère, c'est laisser la parole aux personnes qui participent et vraiment de prendre connaissance de leur challenge. Alors, quand le temps le permet, je le fais avant la première classe où je fais un one-to-one avec cette personne en disant, pourquoi tu as choisi cette masterclass, quelles sont tes attentes, comment je peux t'aider. Et si le temps ne permet pas, j'ouvre la discussion dans la première session en disant présente-toi, quelles sont tes intentions du départ. Donc pour moi,
oui.
C'est vraiment la place la plus importante, c'est de savoir exactement pourquoi tu es là.
Ouais, ok. Donc, il y a une question que je pose à tout le monde, mais je pense que toi, ça va être. Tu vas avoir beaucoup de routines. C'est quelles sont tes routines préférées? Celles qui t'aident à garder l'énergie, garder la pêche, à être en forme, à te sentir bien, en fait. La routine quotidienne ou bien hebdomadaire, comme tu veux.
Pour moi, je suis une personne du matin et je tiens à préciser que je ne l'étais pas. J'ai développé ce mindset parce
Ouais.
que j'ai vraiment pris conscience du fait que le matin, et ça a vraiment quelque chose d'assez spécial.
Ouais.
Je vis à Dubaï et j'ai la chance de pouvoir en fait de pouvoir vivre dans un quartier où j'entends les oiseaux. Et le matin, en fait, quand je me réveille, bien sûr, il fait encore très, très noir à l'extérieur. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que je me suis réveillée, j'ai fait mes ablutions, j'ai fait ma prière de Fajr, c'est vraiment de m'asseoir et de faire. Bien sûr, je fais mes dhikr, je fais vraiment mes adhkar du matin. Mais c'est ensuite ce moment de silence où je pose mon livre. Je pose tout ce qu'il y a, je pose mon téléphone, je pose mon café, tout ça. Et en fait, j'ai ce moment de ce qu'on appelle méditation, c'est de prendre conscience de son environnement. Et avant, en fait, quand j'habitais dans d'autres parties du monde où j'avais pas la chance d'avoir un balcon où je pouvais m'asseoir et écouter, c'était vraiment assez difficile pour moi. Aujourd'hui, je m'assois le matin, après avoir terminé ma prière, et je fais en fait, je pratique le silence. Je pratique le silence, c'est une forme de méditation, et j'écoute. Et j'écoute ce qui se passe autour de moi, et j'écoute les oiseaux, j'écoute les voitures qui commencent à démarrer pour aller au travail. Et ça me permet, en fait, subhanallah, c'est quelque chose qui est énergisant pour moi. Ça m'apporte de l'énergie parce que je me suis arrêtée, j'ai fait une pause et j'ai pris conscience de mon environnement. Et c'est pour moi, c'est la meilleure façon de démarrer ma journée, c'est de démarrer ma journée en silence.
Oui, ok, très bien. Avant dernière question, est-ce que tu as une recommandation de livres, documentaires qui t'ont particulièrement marqué, un ou deux livres, voilà, que tu souhaites recommander?
C'est une question piège.
Ah
recommanderais The Productive Muslim, qui est à l'heure actuelle en anglais, mais j'ai discuté avec Mohamed Faris la semaine dernière. Il m'a promis que d'ici la fin de l'année, il serait en français. Donc, pour ceux qui sont anglophones, The Productive Muslim Company, je t'enverrai le lien pour que tu puisses l'ajouter au lien. Sinon, j'aime beaucoup le livre d'une sœur française, je pense qu'elle s'appelle Myriam Lakhdar, Retour à l'essentiel.
Ok, bien, lecteur, j'en ai entendu parler, ouais.
Oui.
Ok, enfin, dernière question pour les auditeurs, les auditrices qui sont intéressés, comment faire pour te suivre ton travail et même s'ils ont une question, te contacter?
Alors, c'est très facile sur Instagram, Productive Sister. Sur LinkedIn, peuvent me contacter Anan Ramdani. Et j'ai également un site internet, theproductivesister.com. En fait, par Instagram, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien dans la bio et de m'envoyer un message WhatsApp si vous avez la moindre question.
Ok, excellent. Bah écoute, Hanen, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience, ton
Merci.
retour,
Merci
et
beaucoup.
puis de nous avoir un petit peu enseigné, ou plutôt de donner quelques informations sur la balaka culture, la productivité pour les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui se développe, et il y en a très, très, très peu qui sont alignés, en fait, avec nos valeurs musulmanes. Souvent, c'est dans on va dire, tu l'as évoqué, on est beaucoup dans le quantitatif, on est beaucoup dans hustle culture,
Oui.
ce genre de choses. Et en fait, on voit quand on plonge un peu dans nos traditions que c'est pas tout à fait ce qu'on recherche, qu'on est censé rechercher en tant que musulman. Et donc, c'est intéressant de pouvoir trouver du contenu qui soit beaucoup plus adapté pour nous. Anna, je te laisse le mot de la fin, peut-être.
Je reprendrai un terme que un cheikh a dit à Mohamed Faris quand on lui a demandé en termes de productivité quel est le meilleur conseil que vous auriez, et il a répondu ayez des intentions sincères et mettez-vous au travail.
Bah écoute, sur ces belles paroles, Hanan, je te remercie encore. Je demande à Dieu qu'il te mette justement un maximum de baraka sur toi, sur ta famille, sur tes projets, sur
Amen.
tout ce sur quoi tu travailles. Et je te
Amen.
dis à bientôt, Inch'Allah. Salam
Merci
alaikum,
beaucoup.
Hanan.
Walaikum salam.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.